Notre Dieu, le puissant, l'origine et l'accomplissement de toutes choses, vous accueille. Frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous. Je vous invite à vous relever pour saisir votre feuille de culte, pour que nous puissions dire et ensemble la louange qui est indiquée sur votre feuille de culte. Dieu, notre Père, il n'est pas de ténèbres que tu ne puisses chasser. Il n'est pas de nuit qui ne trouve en toi son matin. Sûr de ta parole, permets-nous cette prière. Que notre foi reste paisible au milieu des troubles, que nous soyons portés et puis renouvelés par ton esprit créateur. Amen.
Quand la peur nous prend, ne nous laisse pas désespérer. Quand nous sommes déçus, ne nous laisse pas devenir amers. Quand nous sommes tombés, ne nous laisse pas à terre. Quand nous sommes à bout, ne nous laisse pas aller. Non, fais-nous sentir ta présence et ton amour que tu as promis au cœur humble et brisé. Nous te demandons tout cela au nom du Sauveur, en qui tu nous as déjà exaucés et en qui tu veux continuer de nous exaucer. Amen. Nous écoutons l'annonce du pardon. Le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vous laisse la paix. » Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre quand l'ordre écrase. Elle n'est pas dans le silence lorsque le silence naît de la répression. Elle n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Sa paix est l'amour pour tous, la justice pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et qui humilie, qui écrase, mais il regarde notre bonne volonté, il transforme notre cœur, il fait germer l'amour. Nous croyons en sa paix puisqu'il nous l'a promise, il nous la donne et nous la donnerons au monde. Amen.
Voici l'expression de la volonté de Dieu et dans les cultes, il y a des expressions de type poétique. Là, j'ai choisi pour aujourd'hui Ziad Medouk, qui est un poète de Palestine. J'ai choisi des extraits d'un de ses poèmes pour exprimer la volonté et à l'occurrence le rêve de Dieu. Je vous lis. Je suis la justice qui ne pourra être étouffée indéfiniment et j'ai un rêve. Je suis l'humanité préservée dans l'adversité et le combat et j'ai un rêve. Avec force, énergie, foi et grandeur d'âme, j'annonce ce rêve. Avec beauté, fierté et espérance, j'exprime ce rêve. D'une parole brillante et respectueuse, je révèle ce rêve. De ma terre tolérante de patience et de fraternité, je dis ce rêve. Sur les collines des oliviers, je clame ce rêve. Sur les feuilles du printemps, avec le sang qui rougit nos visages, j'écris ce rêve. Alors que le monde est en cage et muselé, sourd et muet, je dévoile mon rêve. Avec les mots qui traduisent l'espoir et traversent les murs, avec ma poésie, cette arme de paix, je crie mon rêve. Ma poésie affirme la primauté et l'universalité de l'humain. C'est une poésie d'une force sans pareille. Elle se moque des frontières, car ils ne peuvent la bâillonner et entretenir la résignation. Oui, avec ma poésie, je raconte ce rêve. Même si la paix est inéluctable, je dis ce rêve. Même si l'ignoble est toujours au bout de l'injustice, je décris mon rêve. Même si l'actualité est brûlante, confuse et irrationnelle, j'exprime mon rêve. Mon rêve est lucide et transparent. Mon rêve est bâti avec patience et humilité. Mon rêve est l'ultime espoir face au bourreau. Mon rêve renversera les montagnes et traversera le fleuve des années. Mon rêve dépassera le sentiment d'impuissance et d'absurdité. Mon rêve pressent les premières fraîcheurs annonciatrices de notre liberté. Mon rêve sort des ultimes larmes de notre cœur. Mon rêve s'inscrit dans la pensée universelle. Mon rêve, lui, comme une paume laborieuse. Mon rêve remplit le cœur des opprimés d'une grande joie. Mon rêve est beau comme l'odeur généreuse du café de nos mères et le thé vert fleuri et délicieux de nos grands-mères. Mon rêve se fait assassiner tous les jours sans décence. Mon rêve souffre pour parvenir à un droit, juste un droit. Mon rêve est impossible à briser, à faire taire.
Que ta parole parle à nos cœurs et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous, comme pour ce monde. Amen. Et nous lisons dans Luc, au chapitre 1, versets 1 à 4, et puis chapitre 4, 14 à 22, sur la feuille de culte. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Jésus retournant en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire : aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait : n'es-tu pas le fils de Joseph ? Thank you.
Voilà donc la façon avec laquelle l'évangéliste Luc raconte la première prédication de Jésus à Nazareth. Jésus de Nazareth, vous le savez. C'est-à-dire donc chez lui, c'est-à-dire chez les siens, à l'endroit où il a grandi. Une prédication devant des gens qui le connaissent, mais qui vont finir par ne pas le reconnaître. Dans vos oreilles, cette écriture s'est accomplie. Dans vos oreilles, c'est la traduction la plus littérale de ce qu'a dit Jésus après la lecture du prophète dans la synagogue. C'est sans doute aussi le sermon le plus court de l'histoire des sermons. Dans vos oreilles, cette écriture est accomplie. Au revoir. Alors, de quelle écriture s'agit-il ? Il s'agit d'un extrait de la troisième partie du livre du prophète Ésaïe, la partie qui a été composée au retour d'exil à Babylone, autour du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. En gros, à cette époque, il s'agissait de reconstruire Jérusalem. Alors, nous allons noter trois choses. D'abord, Jésus, dans sa lecture, dans sa citation, omet un verset. Le verset qui dit, dans la liste, « guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Jésus ne lit pas ça. Verset que l'on trouve dans les versions classiques, mais effectivement pas dans celle de Jésus. Si ce n'est pas une simple erreur de l'écrivain Luc, et si c'est intentionnel de la part de Luc ou de la part de Jésus, qui sait ? On ne saura jamais ça en fait, hein, qui est de Luc et qui est de Jésus. L'omission de cette partie signifierait que Jésus ou Luc auraient privilégié dans cette liste, que vous avez entendue tout à l'heure, la dimension sociale aux dépens de la dimension sentimentale, je dirais. Dans la liste, il y a « Bonne nouvelle aux pauvres », vous pouvez voir sur votre feuille, il y a « Délivrance des captifs », inutile de vous dire que cette expression « délivrance des captifs » est d'une actualité particulièrement brûlante, et ce, dans la même région. Il y a aussi « liberté aux opprimés », il y a tout ça plutôt que « guérison des cœurs brisés ». Et s'il reste dans cette liste une allusion à la guérison, cette guérison-là est plutôt physique, c'est celle des aveugles. Les cœurs brisés, d'une certaine manière, c'est uniquement psychologique et sentimental, tandis que les aveugles, au départ, c'est un appel à la guérison physique, même si, évidemment, la guérison des aveugles peut avoir un sens figuré, évidemment, pour ceux qui sont aveugles mentalement. Mais d'abord, c'est un sens physique. Donc déjà, en fait, on a une première torsion de la vieille prophétie vers un biais un peu plus politique que psychologique ou sentimental. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, Luc coupe la lecture de Jésus, où Jésus s'est arrêté là, on ne saura jamais, à un endroit bien précis, et cette coupure ne peut être qu'intentionnelle. Dans votre récit du jour, la citation finit ainsi au verset 19 pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Et donc, on s'imagine que Jésus ferme le rouleau et ne prononce pas la phrase qui suit dans le texte d'Ésaïe quand même. Et cette phrase, la voici, est pour notre Dieu un jour de vengeance. La vieille prophétie nationaliste d'Ésaïe parlait à la fois d'accueil ou de grâce, ça peut se traduire de deux façons, et aussi de vengeance. Donc je vous dis l'ensemble, hein, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Et Jésus ne dit pas la vengeance. Jésus supprime dans sa lecture la vengeance comme caractéristique divine. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je trouve. Luc est rempli de ce genre de façon de procéder. Alors, trois, ce qui nous fait arriver au troisième point, un point qui pourrait être considéré comme très important pour comprendre en quoi consiste réellement le mouvement chrétien. Je ne devrais pas l'appeler chrétien pour l'époque, on devrait dire le mouvement des croyants au Christ, puisque personne ne se revendiquait exactement comme chrétien, comme une entité religieuse massive. Donc le mouvement des croyants au Christ. Et voici ce point. Non, ce n'est pas de la prophétie elle-même que découle la performance de Jésus à Nazareth. C'est Jésus là, lui-même, qui donne un nouveau sens à cette prophétie. Et en ce sens, la rend obsolète, puisque ce dont elle parle par la suite n'a plus de pertinence dans le temps de cette prédication à Nazareth. On l'a vu, ce qui suit la vengeance, c'est fini. Mais aussi, si on lit le texte d'Ésaïe, il y a la mention de la mise en servitude des peuples autochtones. Je cite la suite d'Ésaïe 61. « Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des gens d'autres nations seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera prêtre du Seigneur, on vous dira officiant de notre Dieu, vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. » Tout ce qui fait le nerf de la prophétie nationaliste de cette partie d'Ésaïe. Parce que je tiens à préciser quand même que toutes les prophéties ne sont pas de cet acabit. Il y a tellement de diversité dans la Bible hébraïque, mais là, c'est vraiment emblématique de la prophétie nationaliste pour cette troisième époque du livre d'Ésaïe, qui est utilisée par ailleurs dans différentes époques. Ce qu'on voit ici, ce qui est plus intéressant à mon sens, c'est qu'on voit une spectaculaire marque d'émancipation de la part de Jésus et donc de l'Évangile. Et c'est une véritable manifestation que les temps ont changé. On croit naïvement, et c'est normal de croire ça parce que les Évangiles en fait sont écrits comme ça. Il y a des prophéties et tout à coup, on voit que la prophétie s'accomplit, par exemple, il est pendu au bois, etc. C'est normal d'être naïf. On croit que l'Évangile est une réalisation des promesses anciennes. Mais c'est plus subtil que ça, car il apparaît que c'est l'Évangile lui-même qui, en fait, transforme le futur supposé et espéré des prophéties anciennes pour en faire tout à fait autre chose. Et cette nouvelle chose, le mouvement des croyants au Christ, est par exemple tout sauf nationaliste, tout sauf enchâssé sur une terre quelconque, et il sortira rapidement de sa terre originelle et va entraîner des personnes venues de toute forme de croyance, de philosophie et de religion, et se répandra sur toute la terre habitée, ce qu'on appelle l'œcuménée, qui a donné le mot œcuménique. Au point que certaines personnalités très influentes de l'époque, comme le dénommé Marcion, fin du 1er siècle, début du 2e, donc très tôt, très proche de Luc finalement, en iront jusqu'à retirer la Bible hébraïque du corpus des églises. Alors lui, il n'y est pas allé par quatre chemins. Et dans ce qui n'était pas encore le Nouveau Testament, les gens de Marcion ne vont garder que l'évangile de Luc, tiens, tronqué en plus, et quelques lettres de Paul. Présumé authentique à l'époque. Ce Marcion, c'était un riche armateur, un mécène de la foi. Il avait les moyens de financer ce qu'on a appelé sa contre-église. Une église qui a finalement été excommuniée Et lui-même aussi a été rangé dans la catégorie des hérétiques. Rappelons que excommunié, désigné comme hérétique, c'est un mouvement basique en fait. C'est le mouvement qui est semblable au rangement. En fait, c'est le Marie Kondo de la théologie. Par exemple, toi, tu iras là, toi, tu vas sortir de là, toi, je vais te caser ici, toi, tu n'es pas bien, comme ça, tout est en ordre. C'est pour ça qu'on dit parfois que les gens les plus désordonnés dans leur habitat sont les plus intelligents et ouverts, car ils n'ont pas l'obsession viscérale de mettre chaque chose à la bonne place comme le font les tenants de l'orthodoxie chrétienne, par exemple. Mais, bien entendu, je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet très délicat, car il n'y a aucune preuve scientifique sur ce sujet, et pour m'éviter une flèche et pour en prendre une autre, contrairement à l'homéopathie. Bon, voilà. Comme ça, vous pouvez m'en vouloir sur tous les domaines. Marcion l'hérétique, mais en fait, c'est grâce à lui que nous avons gardé l'expression de Nouveau Testament. Carrément. Qui était alors une expression qu'on utilisait très petitement, avec un peu de honte quand même. Lui, Marcion, il a dit, allons-y, c'est le Nouveau Testament. Et on l'a gardé, cette expression. Alors qu'au départ, dire Nouveau Testament, c'était une provocation radicale. Aujourd'hui, on se dit, tiens, l'Ancien, le Nouveau, c'est égal, quoi. Ça nous est égal, ça nous laisse froid. Mais Nouveau Testament, ça voulait dire quelque chose de beaucoup plus fort. Et là, ce n'est pas la faute de Marcion. Et du coup, la Bible hébraïque est devenue l'Ancien Testament. Alors, on a sans doute bien fait de l'excommunier, Marcion. On l'a accusé de toutes sortes de mots, M-O-T-S ou M-A-U-X. On l'a dit qu'il était dualiste, qu'il était gnostique. Enfin, bref, ça débat encore. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. On a bien fait de l'excommunier, évidemment. Déjà à cause de l'extraordinaire richesse de la Bible hébraïque, dont les gros cahiers dans notre paroisse, et depuis quelques temps, pas mal de temps d'ailleurs, font leur miel. Là, après Job, après l'Ecclésiaste, maintenant ce sont les psaumes, vous avez commencé. Donc on a bien fait de l'excommunier, sinon vous n'auriez pas pu travailler. Vous n'auriez fait que les lettres de Paul et l'évangile de Luc. Mais on a bien fait de l'excommunier pour pouvoir rappeler, comme je l'ai fait aujourd'hui, tenter de le faire, comment l'évangile de Jésus, s'il utilise les prophéties anciennes, leur donne un sens totalement nouveau. Et en ce sens, oui, il y a bien pour les chrétiens du 1er siècle et des suivants un ancien et un nouveau testament, c'est-à-dire une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et non pas pour les chrétiens de cette époque, car je me fais l'avocat des textes, moi, hein, c'est toujours pareil. Une première et une deuxième alliance. Je sais que c'est un petit peu touchy de dire ça, mais en tout cas, le nouveau, il a un sens supérieur à ce qu'on croit. Et les liens qui unissent les deux ne sont pas de l'ordre de la prolongation ou de l'éclaircissement, ni même uniquement celui de la dialectique. Il y a un lien que je qualifierais de réécriture du sens, et ce, sans presque toucher à la lettre, ce qui est évidemment assez subtil. Alors, dans le découpage du jour, on lit qu'après le sermon de Jésus, « Cette écriture s'est accomplie dans vos oreilles », les gens commencent à se demander qui il est finalement celui-là. Est-ce bien le fils de Joseph ? Sous-entendu, pour parler de la sorte ? Mais dans notre texte du jour, on ne voit pas la suite. En fait, ces gens qui ont entendu cette prédication, après leurs quelques interrogations, ont voulu tuer Jésus. Déjà au premier sermon, imaginez un pasteur proposant, faisant son premier sermon et que l'assemblée décide de le mettre à mort. Ce comportement est tout à fait répréhensible. Et il est aussi tout à fait incompréhensible. Et nombre d'exégètes se cassent les dents pour savoir ce qui s'est passé. On ne met pas quelqu'un à mort pour un simple sermon. L'explication est sans doute plus transversale. La mise en scène de cette réaction est sans doute liée à cette colère issue de la peine profonde de percevoir que les prophéties anciennes n'ont plus la destination prévue. C'est comme si on avait emprunté un bus et que finalement il ne nous mène pas du tout là où on voulait aller. De se rendre compte, sans pleinement se l'avouer, que l'espérance prévue est devenue cette maison inconfortable, mais dans laquelle quand même nous vivons notre vie, même si nos portes continuent à grincer, même si nos murs laissent passer le froid, même si tout reste très humide et obscur. Mais enfin, c'est notre maison, notre espérance. Or, celui-ci nous dit que tout vient de s'accomplir. Mais quoi ? Cela ne correspond à rien de ce que nous attendions. Elles sont où la vengeance ? Elle est où la rétribution pour tout ce que nous avons enduré ? Pour le fait que nous sommes quand même occupés par les Romains ? Et nos cœurs brisés, tu en fais quoi ? Nous ne sommes pas prêts à quitter ? Nous ne sommes pas prêts à quitter notre espérance, même branlante, pour ce nouveau coup d'éclat de Dieu. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie dans nos oreilles, mais non ! La description de la colère absurde des personnes dans cette synagogue est un coup de génie littéraire de Luc pour décrire assez violemment la radicale nouveauté de l'Évangile et son émancipation de l'espérance ancienne, et donc d'écrire aussi la réaction viscérale face à cette pure nouveauté. Jésus, à la fin du récit complet, que je vous invite à relire chez vous, passe au travers de la foule, comme si de rien n'était, comme si rien n'arrête l'Évangile. Alors, je n'aurai qu'un mot pour terminer cette prédication. Dans vos oreilles, à vous, frères et sœurs, comment l'Écriture s'accomplit-elle dans vos oreilles ? Il n'y aurait pas de meilleure question pour terminer cette prédication. Question à laquelle aucun prédicateur ne pourra répondre à votre place. Et voici donc un temps d'orgue pour méditer cette question. Comment l'Écriture s'est-elle accomplie dans vos oreilles ? Amen. Nous croyons en Dieu, présence divine aimante, fondement de notre être. Nous croyons en Jésus qui nous a révélé cette créativité aimante de Dieu et nous a appelé à la vivre dans notre quotidien. Nous croyons au Saint-Esprit, créativité aimante, permanente de Dieu dans le monde. Nous croyons en l'Église, où nous nous rassemblons pour apprendre Dieu et pour l'adorer, pour partager nos préoccupations mutuelles et pour apporter ensemble justice et guérison à toute la création de Dieu. Amen.